Et l'émission continue, puisqu'à présent, Lucie et moi allons vous parler du 44e festival du film court de Villeurbanne, qui avait lieu comme chaque année au Zola et qui s'est conclu dimanche 26. On était donc à la première séance de projection avec 6 courts, très variés dans leur terme, leur forme et leur durée, mais permettant en tout cas de découvrir d'une manière ou d'une autre ce milieu si particulier du cinéma. Au programme, donc, 6 films et un voyage émotionnel assez intense entre la pure comédie et la tragédie muette, travaux impressionnants de condensation de la vie en quelques minutes, puisque ça va de 27 à 10 minutes, parmi lesquels d'autres chats à fouetter, le premier, qui était aussi le plus long, réalisé par Ovidie, et qui nous faisait rencontrer Paula, prof d'anglais respectée dans son lycée, mais dominatrice dans le privé, qui se retrouve, suite à un malheureux concours de circonstances, enfermée dehors en tenue BDSM et confondue avec un costume de Catwoman par des élèves qui la reconnaissent dans la rue et l'invitent au carnaval du lycée. Tout à fait absurde, le film fait naître cette héroïne timide et attachante, naviguant habilement, cependant, entre les écueils un peu embarrassants, voire, pour dire le mot, cringe, que laissait entrevoir son pitch au départ. Il culmine dans une scène finale, monument de gêne et de drôlerie, où on ne sait plus si on doit rire ou juste être mal à l'aise. Le film est donc une réussite, comme une petite nouvelle, mais peut-être moins puissant que ceux qui ont pu suivre.
Je suis d'accord avec ce que tu dis d'autres chats à fouetter. Enfin, en tout cas, c'était vraiment très très drôle, et toute la salle a ri. Ensuite, il y a eu La Grenade Noire de Ali Zareganatnoui, qui est un très beau film également, alors complètement différent. Je pense que c'était peut-être les deux films qui étaient les plus opposés qu'ils ont mis à la suite, parce que celui-ci, il parle de l'assassinat de Ghazaleh Chalabi, une femme iranienne qui a été tuée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation en 2022. Donc il y a un ancrage réel, et le film est très beau avec ce côté documentaire du coup, mais fortement engagé, puisqu'il utilise des vidéos d'émeutes en Iran, des manifestations, de la répression. Et à ces images d'archives se superpose la figure de Ghazaleh elle-même à travers le dessin, comme ressuscitée parmi les morts, et qui nous raconte son propre assassinat. Donc déjà, c'est un court-métrage qui c'est le plus original au niveau de la forme, puisque on alterne entre dessin et vidéo. Et c'était vraiment très bouleversant. Et je trouve que c'était important de mettre un tel film dans un festival, parce que c'est important de parler de ces sujets-là à travers le cinéma.
Oui, je suis tout à fait d'accord. La forme était assez incroyable, et effectivement, le cinéma permettait de se faire vraiment l'écho de ces sujets extrêmement importants, et que, vu que l'actualité est quand même tout le temps tragique, on a tendance à des fois oublier. Mais venait ensuite Pavan, un film de Pauline Gay de 25 minutes, où Corinne Maziero incarne Cora, qui travaille depuis des dizaines d'années à la chaîne, à vider, découper, préparer des poulets, et dont la fille Alex, qui est incarnée par Salomé De Voels, qui était la Coralie d'Illusion Perdue de Xavier Giannoli, dont la fille Alex est partie à Paris faire du cinéma. Et avec une immense tendresse et une très grande justesse, la réalisatrice filme l'incompréhension qui se creuse entre la mère et la fille, sans pathos non nécessaire ni misérabilisme, de même pour les scènes à l'usine, qui montrent de façon objective, sans compromis et sans exagération, le traitement des poulets, qui montrent aussi la solidarité des employés, toutes des femmes, dont les moments de discussion lors des pauses sont lumineux, dans tous les sens du terme, rayonnants, et qui font vraiment du bien à voir. Se fondant sur des extraits de À la ligne de Joseph Pontus, que d'ailleurs je recommande vraiment au passage, le film n'exclut pas une certaine poésie finale, avec un très beau plan nocturne extrêmement touchant. J'en dis pas plus, mais le film est disponible sur arte.tv, et on vous en reparlera dans un instant.
Ensuite, on a eu le film Fin, réalisé par Fernando Reynaldos, donc très différent des autres. Pareil, c'était super, c'était hyper émouvant, parce que pour le coup, le film joue du silence, donc il n'y a aucune parole et tout passe par les yeux. Les petits gestes, parce que c'est à propos d'un couple de vieilles dames, de vieilles femmes, dont l'une est devenue complètement dépendante, en fait, et ne peut plus se gérer toute seule. Sans spoiler, parce que ça spoil, mais en même temps ça dure 3 minutes, donc elle décide de mettre fin à ses jours avec des médicaments, et l'autre la surprend alors qu'elle est en train de faire ça, et elle ne dit rien, elle la voit, elle pleure, et on sent toute son impuissance et le fait que bah, ça devait arriver et que c'est compréhensible aussi. Et donc c'était un très beau film sur la fin de vie, sur l'amour passé, sur les souvenirs aussi, parce qu'il y a un jeu autour des albums photos, de l'appareil photo lui-même, etc. Donc pareil, c'était vraiment très très bien. Et ensuite, celui-là, il était suivi par Cendre, réalisé par Emmanuel Rioux, qui est un court-métrage québécois et qui est peut-être mon préféré, parce que ça parle du rôle des hommes dans le mouvement MeToo. Donc, autour de l'histoire d'un groupe de 4 amis qui vont faire une virée camping et qui discutent. Et en fait, on se rend compte que, enfin, émerge progressivement le fait que bah, l'un d'eux, en fait, vient de sortir sur les réseaux. D'ailleurs, le mouvement MeToo, il n'est pas nommé, pour avoir agressé une femme que les autres amis connaissent. Et en fait, on voit que le rôle des hommes dans le mouvement MeToo, c'est pas être spectateur, parce que être spectateur, c'est être complice, en fait, et qu'on a beau être ami depuis, en l'occurrence, 13 ans avec la personne, bah, quand on sait que c'est très problématique, il faut déjà en parler à la personne elle-même, et puis même, il faut pas le soutenir, en fait, parce que ça, c'est de la complicité. Et donc, c'est là-dessus, ça montre les amis qui commencent à refuser l'oppression. Une oppression bah, donc, patriarcale, mais qui touche les femmes, mais qui touche aussi les hommes, parce que le film montre aussi les ressorts de cette masculinité un peu toxique et de la pression sociale qu'on peut subir en tant qu'homme, du coup, dans son groupe d'amis. Donc voilà, c'est un film qui parle d'arrêter de perpétuer l'impunité autour des VSS, et c'était très joliment filmé aussi.
Tout à fait. Enfin, bon, c'était là encore deux très très beaux films. Et enfin, cette première séance de la compétition se concluait par Auxiliaire, un film de 24 minutes qui dépeint, surtout sous le prisme de l'humour, la vie de Marc, qui est depuis plusieurs années l'auxiliaire de vie de Quentin, qui est tétraplégique. Ce sont deux jeunes hommes. Et pour qui, donc Marc, pour qui un jour se présente l'opportunité de quitter cette vie en devenant cuisinier sur un paquebot de croisière. En effet, il cuisine extrêmement bien. C'est donc sa journée et sa nuit de doute que le spectateur découvre, en plus de son quotidien avec Quentin, dans une barre d'immeubles à Bordeaux. Et outre des plans très intéressants et assez inventifs, on retiendra l'image de cette barre flottant au milieu d'une mer déchaînée dans une séquence de rêve, le mérite du film est de poser sur le handicap et sur la situation d'auxiliaire un regard vif, enjoué, sans complaisance, et c'est très agréable. Donc si c'est pas le film qui moi m'a le plus touché, il n'en demeure pas moins, à mon avis, un film à voir. Et à la fin de cette série de projections, on a eu la chance, Lucie et moi, de pouvoir rencontrer et interviewer devant le cinéma Pauline Gay, la réalisatrice de Pavan.
Pourquoi ce film et d'où vient l'idée, le qui a impulsé sa réalisation?
Alors le film, il est tiré de l'histoire, de la relation que j'ai avec ma mère. Ma mère s'appelle Cora, elle a passé sa vie à l'usine. Et dans la même usine, et au moment où elle a pris sa retraite, moi je rentrais dans la vie active et je voulais faire du cinéma. Et elle avait vraiment un rejet total de ce choix de carrière. Et donc pour une fois j'ai décidé de faire un film sur moi. D'habitude je fais des films sur les autres, mais là c'était le Covid et je pouvais pas rencontrer des gens. Et la seule personne qui m'appelait tous les jours pour savoir si j'étais bien en santé, c'était elle. Donc j'ai décidé de faire un film sur elle en attendant que la crise du Covid passe.
Merci beaucoup.
Et du coup, il y a un côté très biographique, mais est-ce que c'est que biographique ou tu as aussi fait des trucs fictionnels dans ce court-métrage? À quel niveau, je veux dire?
Oui, en fait, il y a aussi une part de fiction, évidemment, parce que en fait, j'ai fait plusieurs cours avant et à chaque fois, ma recherche est la limite entre fiction et documentaire. Donc à chaque fois, je change mon dispositif parce que le court-métrage, c'est aussi ça, c'est pouvoir expérimenter des choses. Donc d'habitude, je travaille avec des gens qui jouent leur propre rôle. Mais là, c'était impossible, donc j'ai fait appel à des actrices. Corinne et Salomé, et aussi avec des comédiennes sans expérience de jeu, qui les ouvrières dans l'usine sont des vraies ouvrières qui travaillent là-bas. Et donc, en fait, j'ai essayé de mélanger les deux terrains, en fait, documentaire et fiction. Donc, finalement, la fiction, c'est aussi la poésie dans le film, avec les boueurs, tout ça, où vraiment c'est très mis en scène, et puis il y a des moments un peu qui sont toujours de... pas autobiographiques, mais où je vais interroger les ouvrières qui parlent avec Corinne, Et ensuite, on improvise ensemble. Donc, c'est un espèce de gros gloubi-goulga où j'ai testé plein de choses, en fait.
Merci. Et on se demandait aussi le choix de Pontus. S'il a, quoi, il a guidé aussi la création de ce film, vu qu'il est... c'est les textes qu'il envoie off au début et à la fin, c'est ça?
Oui. Alors, en fait, j'ai découvert son recueil de poésie, mais il était déjà mort, parce qu'en fait, il a pu publier qu'un recueil. Et je trouvais qu'il disait des choses très vraies sur l'usine, avec des mots très simples et en même temps très poétiques. Et j'avais envie que mon film ressemble à ça. Donc, je les ai fait lire aux ouvrières et à Corinne. Et tout le monde s'y retrouvait, et avec ses mots simples, il arrivait vraiment à retranscrire une réalité très forte. Et c'est ça qui me plaisait dans ce choix.
Je me demandais quel effet ça t'a fait du coup de voir ton film là, lors de ce festival. Et je sais pas si t'as regardé les réactions des gens pendant le visionnage, etc.
Alors non, parce que je suis sortie de la salle, parce que je l'ai vu 57 fois le film, et j'en veux plus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des moments où les gens sont hyper attentifs, notamment une scène où il y a une ouvrière qui parle à Corinne de son expérience dans le vestiaire quand elle était confrontée à une marieuse. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup les gens, et ça me plaît. Qu'on regarde pas seulement Corinne comme une actrice et qu'on regarde le film pour ça, mais qu'on regarde aussi les autres. Et mon travail avec Corinne, c'était vraiment de laisser la place à ces femmes, de pouvoir s'exprimer et de recueillir leurs paroles. Et pour ça, Corinne était vraiment un atout, parce qu'elle a su créer un espace de travail avec elle où elle les a mis à l'aise. C'était pas une célébrité qui venait voir des gens, elle était vraiment à leur hauteur. Elle a vraiment créé un espace de travail presque. Enfin, elles riaient beaucoup ensemble, elles ont beaucoup discuté, échangé. Et grâce à elle, je trouve que c'est hyper réussi. En fait, ce mélange des deux mondes marche super bien.
Y a que des personnages féminins dans le film, sauf du coup le directeur de l'usine. Est-ce que c'est un choix conscient? Enfin, pourquoi ce choix?
Bah en fait, j'avais envie de représenter des femmes âgées avec des corps différents, parce que je trouve qu'au cinéma, on n'en voit pas. Donc ça, c'était aussi une volonté de ma part, parce que dans l'usine, évidemment, il y a des mecs de tous âges, mais moi, j'ai préféré me concentrer sur ces femmes et leur corps, parce que je trouve ça dommage qu'à partir de 35 ans, une actrice puisse plus tourner et qu'on ne voit plus ces gens qui existent malgré tout. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de représentation de ce type dans le cinéma.
Merci. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Et merci encore pour ce film.
Merci beaucoup d'être venue.
Petite question, juste. Si tu as vu les autres films de la soirée, est-ce que tu as un qui t'a, voilà, qui t'a marqué ou un...
Bah, j'ai bien aimé le dernier. Ce que j'ai aimé, c'est l'humour. Déjà, c'est très différent de ce que je fais, et ça c'est bien. Je trouve que la programmation, justement, ça, c'est plein de types différents, documentaires, fiction, les deux. Et le dernier m'a vraiment surpris, parce que déjà, je le trouvais hyper maîtrisé avec les acteurs. Le fait qu'on montre l'handicap d'une façon un peu différente, ça me plaisait beaucoup. C'est pas vraiment ça le cœur du film, en fait. C'est juste l'histoire de deux potes, parce que c'est, on dirait, quasiment des potes. Et en fait, on regarde autre chose qu'un handicapé. Et ça, je trouvais ça super.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Bon festival, merci. Bonne chance. Ouais. Et puis à bientôt.
Merci à vous.
En plus de cela, nous avons pu discuter avec elle aussi bien du monde du cours que des festivals, du temps de préparation, de la condition de réalisateur et réalisatrice, conditions parfois précaires à la recherche de financements ou de subventions qui se font rares mais stimulantes malgré tout. La réalisatrice prépare en effet la réalisation de son premier long métrage, qu'il nous tarde donc de découvrir, même s'il n'est bien sûr pas pour tout de suite. On la remercie encore pour le temps qu'elle nous a accordé et pour son très beau film auréolé du Grand Prix du Festival lors de la remise du palmarès samedi dernier. Thank you. Et avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils et on commence avec Laura.
Alors moi je vous conseille un film de Luc Adonde qui s'appelle Close et qui est sorti l'année dernière. Ça raconte l'histoire de deux petits enfants, Léo et Rémi, qui ont chacun 13 ans et qui vivent une amitié très fusionnelle jusqu'à qu'un événement tragique les sépare. Je ne vais pas divulguer quel événement tragique va les séparer, mais c'est justement cet événement qui va être traité avec, justesse et délicatesse par Luc Adonde, et je vous recommande fortement d'aller voir ce film, enfin de le commenter en tout cas.
Merci beaucoup pour ce coup de cœur. Le conseil d'Antonin.
Alors moi c'est encore une fois un film qui est sorti plus tôt dans l'année parce que tout a été dit ici, mais c'est le film Sur l'Adamante, le docu de Nicolas Philibert, qui a reçu l'Ours d'Or en février. Donc c'est un documentaire sur un centre de jour de l'hôpital de Paris pour les adultes souffrant de troubles psychiques. C'est un centre de jour qui se trouve sur une péniche sur la Seine, et pour une fois il n'y a pas plus proche d'une vraie chorale dans la narration, parce que ça laisse très longuement la parole aux psychiatres, mais surtout aux patients et à la vraie diversité de leurs troubles et de leur parcours, et surtout à la diversité de leur création propre. Ici il n'y a pas besoin d'avant-garde, on entend direct leur voix. Ça va de un quart d'heure d'impro à la guitare à un exposé de 20 minutes sur un mec qui te raconte pourquoi il est le frère caché de Mick Jagger. C'est sur Amazon Prime la suite, deuxième volet donc d'une trilogie, va sortir l'année prochaine, je crois.
Merci beaucoup. Le conseil de Nathan.
Oui, alors moi je voulais conseiller le film Vincent doit mourir, qui est à l'affiche en ce moment. Pour moi, c'est un des films de l'année. C'est un film de genre avec sans aucun doute l'argument le plus génial que j'ai lu depuis un moment. Puisque le pitch est donc que du jour au lendemain, toutes les personnes qui croisent Vincent, donc, veulent le tuer. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et après, le film développe une espèce de contexte post-apocalyptique hyper efficace. C'est un film qui a le mérite de se passer dans la ville de Saint-Michel-Chef-Chef, qui est une ville dont le nom fait beaucoup rire. On dirait un appel à Saint-Michel-Chef-Chef, je sais pas, je trouve ça très drôle. Donc le pitch est écrit, certes, par une personne à l'anxiété sociale très prononcée, mais toujours est-il qu'à partir de ce postulat, le réalisateur, donc Stéphane Castan, qui s'initie son premier film, et quand je m'en suis rendu compte, je suis tombé des nues parce qu'il fait vraiment preuve d'une maîtrise assez bluffante. Et donc il livre un film très particulier, archi-original, hybride, glaçant, mais aussi parfois franchement drôle, avec une mise en scène virtuose, qui laisse cours à donc, toute cette violence qui se déverse. Karim Leclou, mais aussi Vima Laponce, qui sont donc les deux acteurs principaux, sont tous les deux excellents. Moins que franchement un film d'horreur, c'est surtout un film de genre qu'il faut voir, je pense, pour soutenir ce genre de projet dans le cinéma français. Donc voilà.
Merci beaucoup. Et enfin, mon conseil à moi, c'est un film d'animation français sorti la semaine dernière et qui fait pas mal de bruit, c'est Mars Express, réalisé par Jérémy Perrin. Ce film a une forme et une identité visuelle singulière qui permettent de réinvestir le polar traditionnel, puisque tout cela se passe dans l'espace, sur Mars en fait, où les humains ont, au 23e siècle, réussi à installer une colonie fondée en partie sur la cohabitation avec les androïdes, lesquels suivent les fameuses lois de la robotique énoncées par Isaac Asimov, un robot peut pas tuer un humain, etc. Or, bien sûr, quand la fiction mobilise ses lois, c'est d'abord pour les contredire, et c'est sur cette toile de fond qu'on suit l'enquête que mènent Aline Ruby et son adjoint Carlos Rivera, androïde lui-même, sur la disparition d'une étudiante. L'animation est très très bien, et ça a un style vraiment réjouissant, les trouvailles visuelles sont folles, l'intrigue évite les écueils de « on vit dans une saucisse », et le tout est très intelligemment mené, sans non plus sacrifier à l'humour, mais est-ce que vous condamnez la violence des robots, demande-t-on à l'occasion dans le film, ni à l'émotion. Si vous vous demandez si les androïdes pleurent, vous verrez que oui, et qu'il est tragique de les voir incapables de sécher leurs larmes. Et avec une distribution assez fabuleuse pour les voix des personnages, puisque Aline est interprétée par Léa Drucker, mais qu'on retrouve aussi Mathieu Amalric, Marthe Keller, et même dans un petit rôle, Usul. Voilà, tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir du cinéma sur transistor.fr. Merci à tous les quatre, Laura, Nathan, Antonin et Lucie, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude directement disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast, pour parler entre autres de Napoléon. D'ici là, portez-vous bien, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.